Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Journal qui débute Hélène par les nominations des Molières 2020.
La 32e cérémonie des Molières aura lieu le 23 juin. Elle sera diffusée sur France 2 en prime time, mais sans public. 1000 personnes ont voté cette année pour récompenser à la fois le théâtre privé et le théâtre public. Alors quelques nommés. Alexis Michalik, nommé plusieurs fois pour sa pièce Une histoire d'amour. La Mouche de Christian Eck, qui se jouait au théâtre des Bouffes du Nord, est nommée 6 fois. Pour le Molière de la Comédie, sont nommés entre autres J'ai envie de toi de Sébastien Castro et Père et fils de Clément Michel. Pour le Molière du spectacle musical, on retrouve par exemple Froufrou les Bains de Patrick Hautecoeur qui se jouait au théâtre Édouard VII. Et puis sont en compétition pour le Molière de l'humour. Vous les avez presque tous reçus, Philippe. Ouais. Alors Bérangère Krief, Alex Lutz, Muriel Robin, Nora Hamzaoui. La liste des nominations est à retrouver sur le site des Molières. Jean-Marc Dumonté, le producteur de la cérémonie, voulait absolument maintenir l'événement pour le symbole. Comme il le précise, les théâtres sont les premiers à avoir fermé. Mais ils seront les derniers à rouvrir.
Et puis on en parlera juste après avec Jean-Robert Charrier, il est le plus jeune directeur d'une salle de théâtre en France, le patron du théâtre de la Porte Saint-Martin, il a seulement 36 ans. La fête de la musique, Hélène, aura bien lieu.
Annonce du ministre de la Culture Franck Riester, ce grand rendez-vous de musique qui se déroule comme chaque année le 21 juin se passera dans des conditions évidemment différentes avec le respect des gestes barrières, pas de rassemblement trop important. Le Premier ministre Édouard Philippe précisera les conditions d'organisation fin mai. Franck Riester a évoqué également la réouverture des salles de cinéma. Il travaille pour une ouverture des salles début juillet à condition que les normes sanitaires soient respectées et que toutes les salles obscures de France ouvrent en même temps.
Le Salon du Livre à Nancy, maintenu en septembre.
Et oui Philippe, des bonnes nouvelles ce matin quand même. C'est rare que je vous annonce tout ça. Alors le livre sur la place, le premier salon national de la rentrée littéraire aura lieu le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, puis les week-ends suivants jusqu'au 3 octobre. Ce festival donne vraiment le coup d'envoi de la rentrée littéraire. Il aura lieu sous une forme différente, comme l'événement est étalé sur plusieurs week-ends. Les jauges des salles pourront être réduites. Une sorte de village sera mis en place dans le centre-ville avec des dédicaces, lectures et rencontres organisées chez des commerçants, mais aussi dans des écoles ou d'autres bâtiments de la commune. Le livre sur la place avait accueilli quelques 600 écrivains l'an dernier. Et suite à la crise sanitaire, plusieurs événements littéraires ont été annulés cette année, comme le Salon du Livre à Paris.
Tout autre sujet, Danny Boone qui prépare son prochain film. Et il s'agira de...
Eh bien, un film sur le confinement. Et oui, Danny Boone a travaillé pendant ce confinement. Il a imaginé une sorte de huis clos centré sur les habitants d'un immeuble entièrement confiné, des commerces au rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de bonne. Danny Boone espère pouvoir tourner ce film d'ici la fin de l'année. Et puis, l'acteur Ch'ti ne s'arrête pas là. Il prépare en parallèle un deuxième film, Le Palmier. Il s'intéresse à un village qui cherche désespérément à ce qu'on installe la 5G pour avoir accès au 21e siècle. Tournage prévu au mois d'août.
Et puis cette histoire d'habitants d'un immeuble, ça rappelle le chef-d'œuvre de Georges Perec, La vie mode d'emploi, que je conseille à tout le monde. On termine par de la musique avec le groupe ABBA.
Très bonne chanson de karaoké, Gimme. Voilà, je le conseille aussi à tout le monde. Pas de nouvel album. Le groupe mythique suédois a annoncé la sortie d'un coffret intégral vinyle le 3 juillet prochain. Il contiendra les 8 albums studio. Les disques seront présentés donc en vinyle coloré, en accord avec le ton des disques. Ce coffret sera disponible sur le site du groupe. Son prix, 160 euros. Je rappelle qu'en 2018, ABBA avait annoncé sa reformation et avait dévoilé 2 titres inédits.
Et juste une question, Hélène, vous en êtes où de votre portée? On devait avoir la vidéo de votre chorégraphie.
Bien sûr, et j'ai dit que c'était le 23 mai, nous sommes le 18.
Mais ce suspense est intenable. Merci beaucoup Hélène, à demain. Dans un instant, on va recevoir Jean-Robert Charrier, plus jeune directeur de théâtre parisien en charge de la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin et également du Petit Saint-Martin.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Robert Charrier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez seulement 36 ans, je le précise, car vous êtes le plus jeune directeur de théâtre de France. Vous êtes patron du théâtre de la Porte Saint-Martin, mais pas seulement. C'est l'une des plus belles salles de Paris, 1050 places. théâtres privés, je précise. Alors avant de parler avec vous de la situation de votre et de vos théâtres, de leur future programmation et même du théâtre en général secoué comme jamais dans la crise du coronavirus, question d'actualité, Franck Riester, ministre de la Culture, doit annoncer aujourd'hui 18 mai un guide des conditions sanitaires. Qu'est-ce que vous en attendez et de ce que vous en savez, quelles seront les grandes lignes ?
On n'a aucune idée de ce que vont être les grandes lignes. La seule chose dont on a entendu parler, c'est le rapport du professeur Bricker qui donnait des indications absolument pas réalisables du tout dans nos théâtres, puisque parce que la distanciation des acteurs sur scène, la distanciation des spectateurs dans la salle, c'est quelque chose qui est antinomique selon moi avec l'idée de théâtralité, pardon. Mmh. Parce que voilà, on peut pas, c'est extrêmement difficile de jouer devant des gens éloignés les uns des autres, masqués. Le théâtre, c'est censé être un divertissement, c'est censé être une expérience de foule, c'est pas censé être une expérience où on vient seul en ayant peur de la personne qui tousse trois fauteuils plus loin.
Sans mauvais jeu de mots, on est en train de choisir entre la peste et le choléra. Vous préférez ne pas ouvrir une salle plutôt que de l'ouvrir dans de mauvaises conditions, selon vous ?
Oui. Oui, je préfère. Enfin, c'est pas que je préfère, évidemment.
Quelle est la moins mauvaise solution ? C'est ça le sens de ma question. On est tous pour que ça arrive dans de bonnes conditions.
Oui,
mais la moins mauvaise solution.
La moins mauvaise solution, c'est de prévoir une réouverture plus loin dans le temps, mais assurée dans des conditions normales de représentation et qu'on puisse être soutenu en attendant ça et qu'on rouvre et qu'on puisse dès maintenant préparer des projets de réouverture, même s'ils sont plus loin.
Avant de parler de vos projets, puisque vous venez de citer l'adjectif soutenu, est-ce que vous avez la sensation que le gouvernement prend la mesure de la catastrophe dans le spectacle vivant ? Est-ce que vous vous sentez soutenu, notamment par le président Macron qui fait beaucoup pour le théâtre. Juste avant le confinement, il s'était affiché au théâtre et on le lui avait même reproché.
Oui, mais là, il ne s'agit pas de s'afficher ni au théâtre, ni avec un grand sourire en bras de chemise devant nous. Moi, ça m'est complètement égal. Ce qu'il s'agit, là, c'est d'avoir un peu de vision et de hauteur, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas ni du président de la République, ni du ministre de la Culture. Donc, il faut... C'est formidable pour les intermittents qu'on les ait épargnés, qu'on les ait sauvés de cette situation, même si on attend quand même des précisions pour eux parce que c'est quand même très flou.
Il y aura ce qu'on appelle une année blanche pour eux et on ne demandera pas à ce qu'ils fassent leurs heures puisqu'il est évidemment impossible de faire des heures quand tous les théâtres sont fermés.
Oui. Bon, très bien. Très bien, mais après, il faut quand même aussi penser aux employeurs, parce que c'est quand même nous, producteurs de théâtre, et puis producteurs de cinéma et tous les acteurs de la culture qui embauchons les intermittents. Donc si on nous soutient pas, si on ne peut pas engager les intermittents, ça sera bien gentil de leur donner une année blanche, mais ça n'aura aucun effet pour la suite.
En espérant qu'il n'y ait pas de charrette. Justement, puisque vous en parlez, dans quel état se trouvent vos théâtres, notamment votre théâtre de la Porte Saint-Martin, avec ce confinement imposé et la fermeture des portes ?
Bah, il est en très mauvaise posture. On économiquement, c'est un drame. On est en train de vider totalement les derniers fonds de tiroir qui nous restaient. Et comme on n'a aucune visibilité sur l'avenir, c'est très compliqué. On a mis en vente le spectacle de septembre parce qu'il faut bien qu'on prévoie si jamais on peut réouvrir dans des bonnes conditions. Ouais. Mais on vend aucune place, évidemment. Les gens ne vont pas acheter des places alors qu'on n'a aucune certitude sur l'avenir.
Avant la retraite, avec Catherine Yégel et Nomi Lovski, c'est bien ça ?
Absolument, et André Marcon. Oui.
Ouais, ça raconte quoi ?
Ça raconte, c'est une pièce de Thomas Bernard qui raconte l'avant-retraite d'un ancien officier SS qui se cache chez lui pour fêter en douce l'anniversaire de Himmler. Ouais. C'est une pièce sublime, c'est un très grand texte et c'est trois très grands acteurs et je crois que c'est ce dont on va avoir besoin à la rentrée, c'est d'être impressionné par des gens sur scène.
Ma question est un peu perfide, Jean-Bert Charrier, je vous demande de m'en excuser, c'est que j'ai retrouvé une interview de vous dans l'Express le 29 septembre avant le confinement. On vous parlait du théâtre, vous faisiez un constat terrible du théâtre français et vous aviez ce regret, les pièces sont de plus en plus formatées, l'action se déroule souvent pendant une guerre mondiale. Bim, c'est le cas de cette pièce aussi.
Mais non, et non, parce que ça se passe 30 ans après
bien joué.
Dommage, voilà. Ça se passe 30 ans après la guerre.
Quelle solution voyez-vous pour sauver le théâtre ? Est-ce qu'il va falloir s'endetter, moins payer les comédiens, augmenter le prix des places, faire une sorte de péréquation des trois à la fois ?
Mais non, justement, il va falloir baisser le prix des places pour pouvoir arrêter que le théâtre soit quelque chose de si cher, en tout cas dans le théâtre privé. Et il va falloir trouver le moyen de renouveler le public, là. Si, à un moment donné, il y a eu la menace de laisser confiner les personnes les plus âgées, les personnes de plus de 60 ans, ça aurait été une catastrophe, parce que ça voulait dire qu'on perdait 70% des acteurs, des metteurs en scène et 80% du public.
Ouais.
Donc ça fait prendre conscience du fait qu'il est vraiment temps de renouveler et les acteurs sur scène, et les metteurs en scène, et les gens dans le public. Donc l'urgence, c'est de renouveler.
La cérémonie des Molières, qui était prévue pour le 11 mai, était reportée au 23 juin. Ça sera au théâtre du Châtelet, dans des conditions particulières. Pas de public, pas de maître de cérémonie. Ça devait être Bruno Solo. Mais France 2 maintient sa diffusion en prime time à 21h. Est-ce que vous allez regarder ?
Oh bah oui, je vais regarder. J'avoue que c'est pas ma préoccupation première. Et que
vous êtes en lice quand même avec des spectacles.
Oui, je suis en lice avec des spectacles. Non, c'est formidable. C'est formidable. Voilà.
Merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir entendu. Et je rappelle. Ah non, un mot, le Festival d'Anjou, il revient en 2021, c'est vous le patron, hein.
Bah oui, c'est dommage, c'était ma première année cette année. On avait bien travaillé et puis tout a été annulé. Mais c'est pas grave, on va planquer tout le travail qu'on avait fait et on va le ressortir dans un an et ça sera une grande fête.
Ça allait être ma question, c'est un plaisir d'entendre votre énergie et cet humour que vous gardez. Jean-Robert Charrier, bon. Je rappelle, vous êtes le patron du théâtre du Petit Saint-Martin, de la Porte Saint-Martin, du Festival d'Anjou. Et on sera là pour vous soutenir s'il y a besoin, s'il faut vendre des billets, on sera là, on fera votre promo. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média qui continue dans un instant, on va retrouver notre première indispensable avec Angèle Châtelier, dont c'est l'anniversaire, place au rock. Elle va nous parler de la chanteuse Alison Mozart, des titres solo.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Le premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Et bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Vous avez déjà fêté ça, c'est aujourd'hui?
Oui, c'est aujourd'hui, un petit peu ce week-end, mais en respectant les gestes barrières.
C'est vrai. Et les quantités d'alcool aussi?
Mais donc, moi, je suis un peu fatiguée. Mais tout va bien.
Voilà. Si on écoutait du rock pour continuer,
oui,
à fêter ça.
Faisons ça. Vous vous souvenez peut-être des Kills,
oui.
Groupe de rock phare des années 2000 américano-britannique.
J'aurais pas situé ce morceau, mais je connaissais le groupe.
Voilà, et avec aussi ce tube des Kills, Do We Need to Dance. C'est Jimmy Innes à la guitare et Alison Mozart au chant qui s'est exilé ces dernières semaines pour sortir deux titres en solo. Rise tout d'abord. Alors Alison Mozart avait déjà butiné sur un autre projet musical en dehors des Kills. Elle a été la chanteuse du groupe The Dead Weather, qui est un groupe qui a été emmené par Jack White, des White Stripes. Et alors ses chansons en solo, elle y travaille depuis longtemps. Rise, par exemple, que l'on vient d'entendre, c'est un titre de 2013. Je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai écrite. C'est ce qu'elle dit, assise à mon bureau à Londres, où quelqu'un me manquait beaucoup. Alors ce n'est donc pas pour rien que dans ses paroles, on entend, nous errerons tous les deux brisés, certains que nous sommes.
Ah, bon, d'accord.
C'est joyeux.
C'est joyeux.
Non, mais
c'est votre mantra, hein,
voilà.
Ça, les séparations.
Rassurez-vous, la suite de la chanson est un petit peu plus optimiste. Hein. Elle chante « On va se relever et on va se lever ». Oui, on va se relever. Et puis, ce qu'il y a bien dans cette chanson, c'est aussi son clip. Alison Mozart, elle est fan de voitures. Et alors, dans son clip, on voit plein de vieilles voitures, suivies de plans d'elle qui chante en agitant ses cheveux. Allez donc le regarder. Mais alors aussi, écoutez l'autre titre qu'elle a sorti il y a quelques jours. Attention, il est beaucoup plus calme, il s'appelle It Ain't Water. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'Alison Mozart fait quelques chansons en solo que ça signe la mort de The Kills, l'un des meilleurs groupes de rock de ces dernières décennies. Ils ont confirmé qu'un nouvel album était en préparation et ce sera leur sixième.
Merci beaucoup Angèle Châtelier, on n'est pas invité à la fête mais on vous retrouve très vite. En attendant, on écoute The Kills.
Oui, voici leur tube Future Starts Slow sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Deuxième indispensable du jour, on va parler d'images qui bougent avec Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Margot, nous sommes le 18 mai, normalement on devrait être en plein Festival de Cannes. L'édition 2020 est bien sûr annulée à cause du coronavirus, mais pour compenser, on peut regarder Arte.
Et oui, parce que la chaîne diffuse plein de films qui ont marqué l'histoire du festival, notamment celui qui a reçu le prix du jury. En 2017, c'est un film russe qui s'appelle Faute d'amour, et il est disponible sur arte.tv jusqu'à jeudi, et vraiment, vraiment, je vous encourage à le voir, parce que c'est tout simplement un chef-d'œuvre.
Ah oui, alors le scénario, qu'est-ce que ça raconte? De quoi ça parle?
Alors l'histoire, c'est celle d'un couple qui divorce. On comprend rapidement pourquoi, hein. Boris et Genia sont incapables de se parler plus de 30 secondes sans se hurler dessus.
Ah oui.
C'est vraiment à se demander comment ils ont pu avoir un jour l'idée de faire un enfant ensemble. Cet enfant, il a 12 ans, il s'appelle Alyosha. Alors vous savez, généralement, pendant les séparations, les parents ont tendance à se battre pour la garde. Et bien là, c'est l'inverse. Boris et Genia s'engueulent parce qu'aucun des deux n'a envie de garder leur fils.
C'est de sa mère dont il a besoin.
C'est d'un père dont il a besoin, mais pas d'un comme toi, ça c'est sûr. Il adore partir en colo, je pense que la pension pour lui, c'est pareil. Comme ça, il sera prêt pour le service militaire. Moi aussi, j'ai des projets. Pourquoi ce serait toujours les femmes?
Ils vont nous emmerder, c'est évident.
Qui va nous emmerder, à part toi?
Les pédopsies, les assistantes sociales, les... Tu sais bien, ces putains de médiateurs.
Eh ben garde-le alors, et te prends pas la tête.
Bon, c'est d'une violence assez incroyable. En fait, Boris a une maîtresse qu'il a déjà mise enceinte. Genia aussi, elle fréquente un autre homme. Et leur fils, dans ces conditions, bah, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Bon, je crois qu'à ce stade-là, hein, tout le monde a compris où se trouve la faute d'amour du titre. Et tout ça est tellement violent qu'Alyosha va s'enfuir et disparaître.
Et qu'est-ce qui vous a séduit à ce point dans ce film, Margot?
Eh ben tout, tout. Franchement, la photographie est magnifique, les acteurs sont excellents. Il y a des scènes à vous retourner le cœur. Faut voir que dans le dialogue que je vous ai passé, le garçon en fait est réveillé et il va tout entendre. C'est pas vraiment le film pour se remonter le moral, hein, mais c'est un vrai grand moment de cinéma. Et puis moi, ce que j'adore, c'est que même si ça reste un drame familial, il y a aussi un propos politique. Faute d'amour, ça parle de parentalité, de l'atavisme, de la violence aussi, parce que en fait, on a des parents qui n'aiment pas leur enfant, mais qui ont eux-mêmes été martyrisés par leurs propres parents. Donc tout ça, c'est assez universel, c'est absolument poignant. Mais le réalisateur, qui s'appelle Andrei Zviagintsev, il critique aussi la Russie contemporaine. Il montre notamment l'emprise de la religion orthodoxe. Par exemple, Boris a très peur d'être licencié parce que son patron est très religieux et il n'accepte pas que les salariés divorcent.
S'il y a du changement dans notre situation familiale, est-ce que tu crois que la direction pourrait être au courant?
Ça fuitera forcément un arbre de Noël ou un pot d'anniversaire, vu qu'on doit venir en famille.
Ça se voit. J'ai l'impression que personne n'a jamais divorcé ici.
Tu sais bien que c'est la politique de la boîte. Pas de divorce.
Ça veut dire qu'ici, il n'y a jamais eu de divorce?
C'est pas la dernière fois au pot de fin d'année. Il y a un informaticien qui a amené une fausse épouse. Il avait divorcé de la vraie. C'est une solution comme une autre, non?
Donc, si je comprends bien, si on divorce mais qu'on se remarie dans la foulée, il n'y a pas de problème.
Si on connaît pas ta famille, évidemment.
Et alors, Zviagintsev va aussi montrer l'impuissance de l'État, de la police. Dans le film, les recherches pour retrouver Alyosha sont menées par une équipe de bénévoles. Mais c'est aussi le cas dans la vraie vie. Il y a environ 120 000 personnes qui disparaissent chaque année en Russie, dont beaucoup d'enfants qui fuguent. Et très souvent, bah, la police ne fait rien. Et ce sont des associations qui se chargent d'enquêter.
Mais question, est-ce que le réalisateur est un opposant politique? Parce qu'on sait que dans la Russie de Poutine, critiquer le pouvoir est très délicat.
Et bien justement, il a un positionnement un peu ambigu, assez singulier. Alors, pour avoir à la fois le droit en fait de continuer de faire des films et en même temps dire ce qu'il pense, je vais laisser Anton Dolin, c'est un critique de cinéma russe, vous expliquer.
Ce n'est pas un opposant au sens strict. Je ne l'ai jamais vu participer à des meetings ou des manifestations. Mais quand il se passe quelque chose de révoltant, il s'exprime publiquement, il signe des pétitions. Il a défendu et soutenu les Pussy Riot et beaucoup d'autres, comme Alexei Navalny, le premier opposant politique en Russie, quand on l'a empêché de se présenter aux élections.
Voilà, et cette interview, elle est extraite d'un super documentaire sur Faute d'amour. Donc vous pouvez voir le film, le documentaire, tout est dispo gratuitement sur arte.tv.
Merci beaucoup Margot Barallon, à très très vite.